Bonjour à tous. Vous êtes les courageux d'être venus malgré la neige, malgré le froid. Je vois quand même pas mal d'absence ce matin. Et puis c'est vrai qu'hier on a eu un temps très fort pendant la soirée de louange. C'était très très bien. Ce matin donc, normalement c'était Désiré qui devait prêcher, mais il est rentré dans le pays, au pays. Du coup voilà, c'est moi qui le remplace. Alors ce matin, j'ai choisi une parole dans Jacques, dans le livre de Jacques, chapitre 5. Les deux derniers versets, ce sont les deux derniers versets du livre de Jacques que j'aimerais vous lire. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà jusqu'ici notre lecture. Alors si je résume un petit peu le livre de Jacques, vous connaissez sûrement le livre de Jacques assez bien, c'est un livre composé de 5 chapitres, donc c'est assez court, et il y a tellement de messages très précieux qu'on connaît sûrement des messages qui sont dans ce livre. Souvent, en tout cas, si on résume un petit peu en un seul mot le livre de Jacques, je dirais que c'est un livre de sagesse. C'est vraiment la sagesse de Dieu. Depuis le premier chapitre, on voit comment il faut se réjouir malgré les difficultés. C'est ce que nous avons vu aussi. Nous avons vécu ça dans l'Église. On peut se réjouir malgré les épreuves que nous pouvons traverser. Et puis, dans le chapitre 2, on voit un message très important, c'est que la foi se montre aussi dans les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Important d'être visible à l'œil nu. Et puis, à troisième chapitre, on voit aussi sur la langue, l'utilisation de la langue. Vous savez, la langue, les paroles peuvent blesser même entre les chrétiens. En tout cas, Dieu met en garde sur l'utilisation de la langue. Et puis, quatrième chapitre, on voit aussi un message sur, on pourrait résumer ça, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu, il fait grâce aux humbles. Puis, chapitre 5, on voit aussi qu'il faut s'approcher de Dieu. Il y a encore d'autres messages, mais en tout cas, j'avais déjà prêché auparavant, le dernier message c'était il faut s'approcher de Dieu, et on fait quelques pas, et Dieu fait un grand pas pour venir vers nous. Donc, tout cela, on voit beaucoup de sagesse, et puis bien sûr, le Seigneur commence ce chapitre en disant que si vous manquez de sagesse, demandez. Et on voit bien qu'il y a plein de messages de sagesse qui est là, et puis ça se termine par, tout à coup, sorti de nulle part, Jacques dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, tout à coup, un message d'évangélisation. » Le livre termine par un message d'évangélisation. Je dirais même, en méditant cette parole, je me suis dit, mais c'est vrai que le comble de la sagesse pourrait être un peu le évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. La sagesse, parfois, on peut comprendre que la sagesse de Dieu reste aussi à l'intérieur et ça nous fait changer. C'est quoi la sagesse? On pense que la sagesse, c'est de devenir assez humble, tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais si on relie un peu de plus près, on voit bien que ça doit aussi se voir à l'extérieur. Et surtout, aller vers les autres. Aller vers les autres. Ce n'est pas seulement ce qui se passe en moi, dans le moi, mais ce que moi je fais auprès de mon frère, auprès des gens qui sont perdus, égarés. Voilà. Donc je relis un peu le verset 19 qui dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. » Si quelqu'un est loin de la vérité, qu'on le ramène au Seigneur. Dieu aime qu'un égaré retrouve son chemin. D'ailleurs, il a tellement aimé les égarés, comme vous et moi, qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver le monde entier. Alors, qui sont les égarés? Ça pourrait être un individu qui fait fausse route et qui est complètement perdu. Ceux qui sont peut-être qui ont été dans l'Église et que, qui ont quitté l'Église. Souvent, je rencontre beaucoup de personnes. On a fait un parcours alpha récemment, l'année dernière. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est « J'étais dans une Église catholique, j'étais tellement déçu, j'ai quitté l'Église. » Vous, sûrement, parmi vos proches, vous avez sûrement quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un pas auprès du Seigneur et puis ils ont été blessés par l'Église ou par des gens ou encore par différentes choses, déçus ou encore déçus par Dieu aussi. On peut prier et puis Dieu peut ne pas exaucer puisque voilà, cette prière n'est pas forcément adaptée, l'exaucement n'est pas adapté à la personne. Donc à cause de la déception ou à cause des blessures, on quitte l'Église. Ça peut être des gens égarés. Parfois aussi, ce sont des athées qui ont complètement rejeté la parole de Dieu. En tout cas, ce sont ceux qui se comportent comme si Dieu n'existait plus. Ce sont ceux-là, les égarés. Et la parole de Dieu dit qu'un autre dira amen. C'est qui qu'un autre? C'est qui qu'un autre? Un autre, c'est qui? Comment? Nous? Oui, c'est n'importe qui en fait. N'importe qui. C'est pas juste le pasteur qui a été choisi, non, c'est pas ça. Ou les anciens, les responsables, ou encore les évangélistes, là-bas, ils sont là pour, ça, pour faire ça. Nous, c'est. Non, moi, c'est pas mon don. On voit souvent ça. On se dit que, mais Seigneur, de toute façon, j'ai pas reçu. Donc, moi, je fais à ma sauce, quoi. C'est-à-dire. Je vais faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais être gentil avec les gens. C'est super. Mais ça ne suffit pas. Là, il lui dit qu'un autre lui ramène. Comment on peut ramener en étant tout simplement gentil avec les gens? Ce n'est pas possible. Il faut ouvrir la bouche et il faut parler avec les gens. En tout cas, oui, c'est pas seulement un chrétien mature qui a étudié la Bible, qui a fait une longue étude pour pouvoir évangéliser. Non, c'est pas cela un autre. Un autre, ça peut être un chrétien fraîchement converti. Moi, j'ai vu vraiment quelqu'un qui balbutiait quand il témoignait. Mais son balbutiement est tellement puissant parce que son témoignage était vrai, authentique. Que les gens étaient touchés, ils revenaient vers le Seigneur. Ils se disaient, mais voilà, en plus, ils s'exprimaient mal. Mais malgré cela, le Seigneur a travaillé avec son balbutiement. Il peut faire des miracles. De toute façon, ce n'est pas nos mots qui transforment les gens. C'est Dieu nous utilise et il touche le cœur de chacun. Mais est-ce que nous sommes prêts à être les instruments du Seigneur? Ou tout simplement, nous nous retirons de cela, de ce projet de Dieu. Et puis d'ailleurs, on peut se demander comment on pourrait ramener les gens égarés. Comment on pourrait ramener les gens égarés. Dans 1 Timothée 4, il est dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Donc voilà, Dieu et Jésus jugeront. Et au nom de son apparition et de son royaume, c'est-à-dire que le Seigneur reviendra, prêche la parole. Donc, d'abord, il faut ouvrir la bouche et prêcher la parole. Prêcher la bonne nouvelle, comme quoi Dieu est venu pour nous sauver. Insiste en toute occasion, favorable ou non. On cherche toujours une occasion favorable. Mais si on attend toujours l'occasion favorable, on peut attendre jusqu'à X années, n'est-ce pas? On se dit, ah, mon voisin, mes voisins, cette fois-ci, je vais en parler. Et puis, j'attends toujours, moi en premier, avec mes voisins, je vais attendre l'occasion propice pour parler de Dieu. Et puis, on attend. Mais le Seigneur dit, mais, favorable ou non, insiste en toute occasion, prêche la parole de Dieu, reprend, censure, exhorte, attention, avec toute douceur. Avec toute douceur. On n'est pas là pour enseigner ou pour réprimander les gens. On est là pour aimer. Et quand on aime, on peut parler avec douceur. Quand on aime notre prochain, on peut aussi vraiment instruire avec bonté, avec amour. Et les gens peuvent être touchés par ça. Voilà. Donc le Seigneur a dit qu'il faut être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Il faut bien sûr trouver les bons moments nécessaires, mais Dieu aussi dit quand même que favorable ou non pour ramener les personnes. Il faut bien sûr aimer pour ces âmes perdues. Est-ce que nous avons vraiment l'amour pour les personnes perdues éternellement? On n'y pense pas, n'est-ce pas? Moi, je suis sauvé, donc je m'en fous. C'est ça? Hein? Parfois, on se dit comme ça. Moi, je parle un peu crûment. Hein? Quand quelqu'un est dans des difficultés, par exemple, Mariella, ce matin, hein, on a vécu quelque chose de très très fort hein, cette année, et même l'année dernière, à la fin de l'année dernière, et c'était le début de cette année, la perte de son épouse, son époux. L'Église était là pour consoler, on a prié ensemble, on a pleuré ensemble, c'est normal d'être avec elle. On était là tous ensemble pour vraiment la consoler, etc., etc. On avait beaucoup de compassion pour la famille qui, parce que Marie est devenue maintenant veuve, les parents, les enfants sont devenus orphelins du père. On pense que le Seigneur sera avec cette famille. On pense vraiment, et oui, en tout cas, on est vraiment peinés. Et puis, on a senti une grande douleur à cause de cette séparation. Et puis, j'ai réfléchi. Est-ce que moi, personnellement, j'ai autant de peine, de douleur? Est-ce que je ressens vraiment cette souffrance en voyant les âmes perdues, qui sont perdues éternellement? Et on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas forcément. C'est vrai que on pense que oui, de toute façon, c'est Dieu qui fera. Et puis on laisse faire. Et puis moi, je fais rien. Non, il faut aussi agir. La foi se montre aussi dans les actions. Le Seigneur nous demande vraiment d'agir aussi. D'après, en tout cas, le livre de Jacques. Je me dis que le Seigneur n'a pas inspiré Jacques pour qu'il termine son livre avec ce message d'évangélisation. Hein? C'est vrai qu'il faut faire attention dans les paroles. C'est vrai qu'il faut se réjouir dans les épreuves. C'est vrai qu'il faut être humble. C'est vrai qu'il faut faire plein de choses, être guéri, etc., etc. Mais, à la fin, le plus important, c'est aussi sauver mon prochain, sauver mon voisin, sauver ma propre famille qui est loin du Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Il a choisi d'habiter à Sodome et Gomorre. Et puis, pendant tout ce temps où il a été là-bas, il n'était pas capable d'évangéliser une seule personne. Il s'est contenté de sa foi, lui tout seul, voilà. Quand il a vécu avec Abraham, il a vécu tellement de choses, voilà, il avait la foi en lui. Et puis, il a choisi le bien matériel. Et puis, voilà. On voit bien que quand Dieu a cherché 10 personnes de justes, il n'a pas pu trouver dans cette grande ville. Ça veut dire que Lot n'avait rien fait, n'avait pas ouvert sa bouche pour parler aux gens qui étaient dépravés. Parfois, on peut se désintéresser totalement des personnes qui sont loin de Dieu, mais parfois aussi, on peut se taire parce que on n'aime pas ces gens-là. Hein? Je vous avais parlé aussi la dernière fois, de même aussi avec Porthos le Vert, il a aussi parlé. Le Seigneur veut que tous les pécheurs se repentent et reviennent vers lui. Même les terroristes, même les persécuteurs des églises, le Seigneur aimerait qu'ils reviennent. parfois à cause de la haine pour certaines personnes, on n'évangélise pas. Il y a aussi c'est ça. Je pense que j'avais aussi apporté un message sur les quatre lépreux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était, je ne sais pas, il y a 2 ans peut-être. C'est l'histoire de 4 lépreux dans 2 rois 7, où, à l'époque d'Élisée, où voilà, les Syriens avaient siégé la Samarie. Et puis, les gens morts de faim. Hein. Et là, les 4 lépreux, ils se sont dit, on n'a rien à perdre. Si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas, peut-être qu'ils nous donneraient à manger ou peut-être nous serons tués. Mais c'est pas grave, de toute façon, nous mourrons. Alors on y va et puis ils y vont. Et quand ils y vont là-bas, les Syriens entendent un drôle de bruit et puis ils pensent que c'est une grande armée qui vient de la part des autres pays et qu'ils se sont, voilà, ils se sont enfuis. Et là, ils découvrent plein de nourriture, plein de trésors, etc., etc. Et puis ils commencent à manger pour eux, etc. Et ensuite ils pensent aux gens qui attendent et qui meurent de soif et de faim. Et là ils se sont dit, si on n'annonce pas, le Seigneur nous jugerons. On va annoncer qu'il y a un trésor, on va annoncer qu'il y a beaucoup de choses à manger. Et ils les ont annoncées. Je pense que s'ils avaient, ils se sont tués à ce moment-là, ils deviendraient, entre guillemets, des meurtriers par procuration, en faisant rien. Parfois, on peut devenir comme ça. Et, enfin, je parle un peu sévèrement, mais je pense que vous avez compris un petit peu le message. Le Seigneur vraiment nous demande d'ouvrir notre bouche. Vous savez que cette année, on a un projet d'église qui est Parcours Alpha. Nous avons déjà commencé à Voinemont, chez les petits gens. Là, cette année encore, nous allons commencer un autre Parcours Alpha à l'église même à partir du mois de mars, le 1er mars, vendredi 1er mars. Et nous allons vous distribuer les invitations. Et avec les invitations, peut-être vous pensez à quelqu'un, vous pouvez distribuer. Si vous n'êtes pas, si vous vous dites que moi, je n'ai pas tout ce don, etc., pour parler de. Vous pouvez juste distribuer et inviter à la personne à venir, parce que Parcours Alpha est une très très bonne formation pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Ce n'est pas seulement pour qu'ils sont complètement loin de Dieu, mais aussi ceux qui commencent la foi, donc, et qui cherchent en tout cas à approfondir leur foi. En tout cas, c'est une très bonne formation pour. Pour ceux qui ne connaissent pas le Parcours Alpha, ça consiste à 10 repas plus un repas où les gens vont se retrouver tous ensemble une fois par semaine et l'église prépare à manger. Et là, on va avoir un enseignement et on va discuter autour de le sujet que nous allons discuter le soir même. Donc, c'est un très bon moyen, en tout cas, pour prêcher l'évangile. Et puis, je pense aussi à cette femme samaritaine qui rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et puis elle est étonnée, toi qui es juif, tu me demandes de te donner à boire. Parce qu'en fait, à l'époque, un juif ne parlait même pas aux samaritaines, surtout pas, en plus c'était une femme. Donc ça ne se faisait pas. Mais en tout cas, pendant la discussion, elle découvre que c'est le Messie. Parce qu'il dit que oui, c'est moi le Messie. Et là, à travers la discussion, elle entend, elle voit et elle ressent, elle expérimente le vrai Messie. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, donc elle a laissé sa cruche, c'est important, elle était venue prendre de l'eau. Et là, elle laisse tomber sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Voilà une femme qui est un petit peu moquée par la ville entière, à cause de sa vie adultère. Cette femme-là, lorsqu'elle témoigne auprès des siens, elle ne dit pas des grands mots. Elle ne dit pas une grande théologie. Elle dit juste, viens voir, j'ai peut-être rencontré le Christ que nous attendions depuis toujours. Et cette parole a permis, en tout cas, à beaucoup de gens venir vers Jésus et être touchés par lui. Juste un seul mot, une petite invitation, ça peut transformer la vie d'une personne. Incroyable. Je continue la lecture dans Jacques chapitre 5, le dernier verset. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je pense qu'on parle de Dieu aussi, puisque c'est Dieu qui pardonne les péchés et qui sauve aussi l'âme de la mort. En tout cas, ce qu'on peut voir dans ce verset, c'est que celui qui ramène l'égaré, il devient participant à cette œuvre du salut. Et c'est incroyable. Le résultat, c'est que celui qui l'a ramené sera sauvé lui aussi. Hein. Non seulement la personne qui est venue sera sauvée, mais celui qui annonce, qui donne, est aussi édifié. Vous avez jamais ressenti ça? Quand on donne, on reçoit aussi. Hein? Quand on sert Dieu, on fait souvent ça. Chaque année, nous allons à Vendeste. On va servir les gens de la ville. Et on nourrit 1000 sandwichs, enfin plus de 1000 personnes en tout cas, 1000 sandwichs, il y a 400 enfants qui viennent, on fait plein de choses, d'activités pour la grande kermesse. Et toute l'église est mobilisée pour ça. On est à peu près 80 bénévoles et on fait cela. Mais tout à la fin, ce que moi je reçois, ce que j'entends, c'est que les gens me disent, « Mais pasteur, mais en fait, c'est pas moi qui a donné. Moi, j'ai beaucoup reçu. Le Seigneur m'a beaucoup donné aussi, en fait. En donnant, on reçoit. On est édifié mutuellement. Et c'est ce qu'on découvre aussi dans Ézéchiel qui dit que « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. » Il n'a pas dit son âme. « Tu sauveras ton âme. » Nous aussi, nous sommes sauvés à cause de ce que moi je fais. Par contre, dans le verset précédent, il est dit que « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Donc, nous serons toujours sauvés, mais celui qui n'a pas écouté, voilà, il y aura la conséquence de ses actes. Par contre, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, tu mettrais un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Tu mourras, il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. C'est un peu sévère. Je te redemanderai son sang. Hein? On a cette responsabilité de parler aux gens, cette responsabilité d'annoncer. C'est comme si il faut penser à ces quatre lépreux qui avaient le trésor et qui étaient prêts à partager cette bonne nouvelle à toute la ville. Pareil, nous devons justement partager cette nouvelle. Et ainsi, le Seigneur nous dit dans Daniel 12, 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. » Nous allons briller comme les étoiles lorsque nous allons prêcher la bonne nouvelle, à toujours et à perpétuité. Voilà. Par contre, il y a un détail important dans l'évangélisation. Il est dit dans 1 Timothée 4, « Veille sur toi-même. » Hein, nous aussi, nous devons faire attention, nous devons veiller. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà, nous sommes appelés à être des canaux de bénédiction. Regardez un peu Abraham, il a été une source de bénédiction pour toutes les nations. Et puis nous aussi, nous sommes appelés à être des canaux de bénédiction. Des canaux ? Non, des canaux. Des canaux, oui. Dieu nous donne beaucoup de choses, beaucoup de grâces. Nous recevons beaucoup de paroles par peut-être des témoignages ou par des enseignements. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde de technologie incroyable et si vous voulez entendre la parole, les meilleurs prédicateurs sont là sur Internet. Hein? Vous n'avez qu'à piocher et entendre les bonnes paroles. Mais si on fait que ça, et qu'on ne fait rien à mon prochain, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Hein ? On peut recevoir plein d'enseignements, et peut-être être enrichi, même pleurer, avoir la joie de cette bonne nouvelle, puis si on ne fait rien, c'est comme devenir cette mère morte. Vous savez, la mère morte qui reçoit de l'eau, et puis ça ne fait pas circuler. Donc ça devient une mère morte. Hein ? L'eau s'évapore et ça reste... Il ne reste que le sel. Hein, et que la vie ne devient pas possible. Est-ce que nous sommes prêts à faire circuler, à faire fluidifier ce message que nous avons reçu ? Hein ? Il faut vraiment qu'on puisse vraiment répandre aussi à cette bonne nouvelle que nous avons déjà reçue à ceux qui sont autour de nous. J'aimerais terminer par l'exemple de Wesley. Vous connaissez un peu Wesley, le prédicateur. Il était au départ un religieux. Hein, et il était un anglican. Quand il était jeune, il a étudié la parole de Dieu. Et puis, il a essayé de vivre une vie sainte en tant que religieux. Et puis tout à coup, en lisant la parole, il découvre le message central. Et comme quoi, on est sauvé par la foi. Et qu'il vit une vraie conversion. Hein, il est mort au péché, il découvre qu'il est mort au péché et que Jésus vit en lui. Il vit une vraie conversion. Ensuite, malgré cette conversion, il connaît l'évangile, mais voilà, la joie est là, mais il avance pas, il décolle pas dans sa foi. Et puis un jour, il rencontre les Moraves, qui était vraiment rempli de Saint-Esprit, qui avait vraiment avec le feu brûlant, etc. Enfin, le feu brûlant, c'est pas une bonne expression. Ils étaient tout en feu. remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a deux choses différentes. Hein. On peut recevoir le Saint-Esprit en confessant Jésus comme notre Sauveur, hein, parce qu'on ne peut pas confesser Jésus comme notre Christ, le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit, d'après la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Mais recevoir le Saint-Esprit et être dans la plénitude de Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à être dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, hein? Et en tout cas, Wesley a décidé d'être rempli par l'Esprit de Dieu et suivre un peu comme ces Moraves qui recherchaient cet Esprit, Saint-Esprit. Et ensuite, le résultat, quand une fois qu'il a été rempli, la première chose qu'il fait, d'abord, il entend il obéit à la parole de Dieu et qui lui dit prêche la parole. Il avait déjà prêché la parole, mais le Seigneur le poussait à prêcher dans la rue. Et là, il a commencé à prêcher dans la rue, devant les mineurs. Et il avait vraiment, comme vous et moi, il avait peur. Il avait des a priori, mais une fois qu'il s'est lancé, il y avait des choses incroyables qui se sont passées. Voilà. C'est comme ça qu'en tout cas l'église méthodiste est née. L'évangélisation n'est pas une option. L'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle est quelque chose de primordial dans notre vie de foi, en tout cas, de chrétien. J'ai entendu aussi une histoire d'une sœur dans les années de Moyen-Âge où cette sœur-là avait reçu beaucoup de biens et elle avait hérité beaucoup de biens Et ensuite, elle avait 18 ans, belle, beaucoup de prétendants venaient pour demander sa main. Mais elle s'est dit, moi, je veux servir Dieu. Et puis elle est allée dans le couvent, et puis elle s'est enfermée dans un tour, et puis elle a décidé de vivre là-bas, en abandonnant le matériel, etc., etc. À l'époque, beaucoup de gens l'ont applaudi, etc., pour sa sainteté, etc. C'est pas ça que Dieu cherche. C'est pas ça que Dieu cherche. S'isoler du monde? Non. Il faut être lumière et sel dans le monde. Il faut aller vers les autres. Il faut aller dans le monde pour apporter la lumière que nous avons dans notre cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne aussi le courage, l'empressement et surtout l'amour du prochain. La compassion pour ceux qui sont perdus. Que nous puissions vraiment avoir ces cœurs, hein, en commençant par moi, qu'on puisse vraiment, peut-être à travers aussi ce projet de l'Église, Parcours Alpha, qu'on puisse vraiment annoncer ouvertement et avec intelligence, bien sûr, que le Seigneur nous bénisse et bénisse notre projet d'Église. Je vous invite à la prière. Seigneur, parfois, nous sommes tellement contents dans notre confort personnel qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Seigneur, aide-nous vraiment à aller de l'avant et que, oui, nous savons aussi, nous savons que tu es avec nous, mais en ce qui concerne l'évangélisation, parfois on donne tellement d'excuses pour ne pas aller vers les autres. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes tus. Alors je te prie vraiment, Seigneur, de nous donner assez d'amour pour ceux qui sont perdus, pour pouvoir annoncer, comme ces quatre lépreux, comme cette femme samaritaine qui a parlé ouvertement. Et elle a juste dit, venez voir. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une grande théologie ou d'une grande connaissance. Si nous avons été touchés par Dieu, il suffit juste d'ouvrir la bouche en disant que oui, moi j'ai été touché et que tu devrais aller le voir aussi. Seigneur, oui, je te prie vraiment en tout cas de conduire toutes choses. Il y a aussi pas mal de cultes, d'évangélisation, mais aussi le parcours alpha que nous prévoyons faire. Tout cela, nous te remettons. Cette année, 2019, on a aussi plein de projets. Et tous ces projets soient vraiment conduits par toi. Je sais que l'homme projette, mais c'est toi qui nous conduis nos pas. Et conduis nos pas, s'il te plaît. Conduis le pas de l'Église de Vendeuvre. Conduis le pas de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ta parole, pour ton accompagnement, pour le courage que tu vas nous donner. Fortifie-nous, renouvelle-nous, et que vraiment, Seigneur, qu'on puisse avoir encore non seulement l'amour de Dieu, c'est important, mais surtout aussi l'amour du prochain. Au nom de Jésus. Amen.